Laissons tomber les circonstances atténuantes, comme on dit. Mais moi, j'aurais pu parler de cela en termes de réel politique, comme on dit, la ruelle politique. Mais c'est même plus la peine d'en parler trop longtemps, ça ne sert à rien. On va plutôt présenter tout cela sous une forme anecdotique. Waouh, y arriver. Ici, vous savez, il y a la grève des enseignants qui a révélé quand même des choses, j'en ai parlé la dernière fois, assez vraiment biscornues. Et les enseignants demandent à ce qu'on leur reverse la totalité des 181 milliards qu'on leur doit, ce qui veut dire pour chacun qui, pour un tel, des reclassements, pas fait, pour un autre. C'est la même chose d'ailleurs, pas de réintégration, pas d'intégration. Pas de matricule, pas de reclassement, pas de prime de logement, pas de correction, pas d'ici, pas de ça. Trop de choses qui manquent, qui n'ont pas été payées depuis 20 ans. Alors, eux, ils ne veulent plus attendre, il faut qu'on donne la totalité de l'argent. Ça donne lieu à un débat. Le principe de paiement de ce remboursement à qui, c'est évident. Mais maintenant, il y a certains qui se disent, oui, mais ça peut se faire sur 3 mois, ce n'est pas grave, ils peuvent attendre, ils ont déjà trop attendu. Et puis d'autres qui disent, les enseignants se disent, ce n'est pas possible parce que là, on est au bout du rouleau, on n'en peut plus, il faut nous payer. Et ça a donné lieu à un échange de passe d'armes, comme on va dire, entre un enseignant, un héritier, un fils de quelqu'un qui est un classique du gouvernement, qui a été nommé vice-recteur de l'université de Yaoundé 1, M. Onangini, par ailleurs consultant politique, et qui est aussi professeur enseignant à l'école de guerre, dirigée par la France, puisque la dernière fois, c'est l'ambassadeur français qui a remis les diplômes aux sortants. Et entre lui et de l'autre côté, M. Messanga Nyamding, Charlemagne, qui est professeur de l'Institut des Relations internationales du Cameroun. Alors, lui, ce professeur dit qu'il faut payer, bien sûr, et en plus, il soupçonne que le président Biya est pris en otage par une clique qui ne veut pas laisser le pouvoir. Laquelle clique comprend le père du recteur de l'université 1, voyez un peu. Alors, le vice-recteur de l'université 1, il sera bien probablement recteur, hein, que ça serait pas étonnant, puisque celui qui est là a demandé 2 ans de prolongation, por favor. Lui, il a dit du haut de son statut d'héritier qu'il ne pouvait pas discuter avec le professeur de l'Institut des Relations internationales, tout simplement parce qu'il n'avait pas de référence. Ah, les références. Oh, j'ai un débat universitaire, très, même pas académique, je ne sais plus le mot, scolastique. Enfin, pas de référence, enfin, c'est bizarre. Bon, moi, j'ai donc une référence à apporter. De toute façon, moi, je lui avais dit à ce professeur, compte tenu de ce que j'ai écrit la dernière fois, parce que surtout qu'il a voulu politiser une affaire qui n'est pas vraiment politique, c'est une affaire de management, même si ça rejoint, tout rejoint, tout part et tout finit à la politique au Cameroun, parce que pour lui, ce vice-recteur, ce mouvement, pour une fois qu'on n'arrive pas à trouver la main de l'opposition quelque part, on essaie de la trouver derrière ce mouvement en disant forcément un truc aussi bien huilé, c'est pas possible, c'est pas que le syndicat, c'est l'opposition. Alors pour lui, c'est une tentative de coup d'État, il n'accepte pas, et les enseignants peut-être n'ont qu'à aller se faire foutre à la limite. Moi je lui dis, mais quelle déviation, monsieur le professeur, sauf votre respect. Vous vous rendez compte, ce sont ce genre de propos qui ont créé la guerre de sécession dans le nord-ouest, sud-ouest, puisque ça a commencé exactement de la même façon par des enseignants qui se plaignaient des conditions de travail, qu'on a renvoyé dans les cordes, aller voir ailleurs. Et puis, des avocats, et c'est très sérieux. Finalement, les gens ont pris les armes parce que trop, c'était trop. Ils avaient aussi dit qu'ils avaient déjà trop supporté cette réunification qui n'était que factice, parce qu'avant, le Cameroun était une république fédérale et qu'ils voulaient revenir au fédéralisme, tout simplement. Ah, bah alors, allez dire ça aux gens qui sont habitués au pouvoir total, global, sans partage, ça passe pas, ça passe pas. Et bon, moi, j'apporte ma référence, et ça, c'est un peu pour détendre l'atmosphère, ma référence en matière d'immigration. Et c'est un livre que j'ai écrit, Clandestin, un destin, un e-book, vous retrouverez chez Amazon. Je m'occupais à ce moment-là de l'adoption, et puis finalement, ça a été plus large. Le thème, dans le descriptif que je ne peux pas lire là, malheureusement, je n'ai pas bien prévu, et tout, enfin, il fallait le recopier. Le descriptif que vous pourrez lire, je vous mettrai la référence en résumé, c'est que la politique de l'immigration est considérée tantôt comme laxiste, tantôt comme généreuse, et tout cela parce que l'immigration, en tant que telle, enfin, est victime d'un double manquement, je ne sais pas comment le dire, la légalité, absence de légalité, absence d'un cadre légal, absence de légitimité. Donc, la légalité. Vous savez, on prend des lois comme d'habitude, mais ces lois-là ne sont pas forcément applicables parce que les cas de la ruelle politique, comme on le disait tout à l'heure, c'est pas, les individus ne sont pas comme des boîtes d'allumettes qu'on met dans une boîte préfabriquée. Donc, il faut rentrer là-dedans et ça rentre pas toujours forcément par tous les bords, vous voyez. Donc, ça rend les dossiers de régularisation très difficiles, les dossiers de demande d'asile très difficiles, et les dossiers de ci, de ça, parce que ceux qui écrivent même ces textes de loi ne sont pas dans le réel. Donc, ils écrivent des textes qui ne sont pas applicables. Alors, on régularise un peu comme ça, j'avais dit ça une fois, au hasard ou au petit bonheur, la chance. Et ensuite, derrière, il y a la question de la légitimité. La question de la légitimité, c'est aussi celle qui, elle consiste en ce décalage entre la perception que les gens ont de la visibilité, parce qu'il y a des seuils, hein, de visibilité, et de proximité aussi, et probablement le cadre historique, le cadre coopératif, le cadre international, vous voyez, aux États-Unis, les Noirs américains, on ne sait pas d'où viennent, ou plutôt quand on va en parler, on dit non, 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 la critical race theory, ça passera pas. Pas de ça, là, de rappeler que c'est l'esclavage qui a fait en sorte que les Noirs américains, donc, ils sont délégitimés. En France, on a besoin aussi de ces cours-là pour rappeler que peut-être que les Noirs ne sont pas là par hasard. Ça a commencé avec la Première Guerre mondiale où les tirailleurs sénégalais, peut-être probablement avant, sont venus aider. Vous voyez, ça continue dans beaucoup de choses, de Gaulle et l'Afrique, etc., etc. Bon, on ne parle pas de ça à l'école. Le cadre légal, il est comme ça. Et puis à l'applicabilité, on a autre chose qui est toute l'instrumentalisation aussi qui a été faite avec l'immigration, avec les associations comme SOS Racisme, qui après sont entrées dans un jeu de clientélisme électoral. Le vote musulman qui a porté M. Hollande à la magistrature. Bon, M. Hollande devait gagner, ça, c'est pas le problème. Mais disons aussi que localement, ça joue trop ces choses-là, les faveurs qu'on accorde trop à certains. Bon, c'est vrai qu'en territoire où on a parqué les immigrés plus qu'il y en a de Français, c'est très visible parce qu'on a l'impression que les immigrés vivent d'allocations, d'avantages sociaux, ils sont pleins à la mairie, sont eux qui ont tous les avantages, qui ont l'électricité payée, qui ont les bons alimentaires. Vous voyez, le Français, il regarde ça, ça lui plaît pas beaucoup. Donc, ça pose la question à la fois de cette immigration extra-communautaire qui n'a pas été, je veux dire, c'est une greffe qui n'a pas prise jusqu'à présent. Est-ce un problème de civilisation? Je ne sais pas. Et puis de l'autre côté, on critique maintenant, pas on critique, on stigmatise ces gens-là en disant ben, ils sont sur le point de nous remplacer par une autre culture. C'est aussi possible, parce qu'il y a la culture populaire est du côté des immigrés, hein, clairement. Bon, est-ce que cette culture va remplacer la culture traditionnelle, noble, tout ça française. Bon, ça aussi, c'est à voir. Mais toujours est-il dit que on a ici des effets de visibilité, des effets de seuil. Voilà, les effets de seuil, les effets jusqu'où on se supporte, et le seuil lui-même jusqu'où on accepte les gens, jusqu'où on régularise et tout. Mais et le problème, c'est que si tout cela était mécanique, ce serait bien. Bon, la visibilité, c'est automatique, on voit bien très bien. Vous allez au comment on dit, dans les quartiers où on vend la nourriture des immigrés, là, bah, c'est clair que le métro, il arrive où il arrive. Et puis, il y a toute la population qui change tout d'un coup. Ça, c'est carrément le grand remplacement, c'est clair. Et puis, vous sortez de là, vous allez de l'autre côté aussi, vous pourriez dire la même chose que là-bas, il n'y a pas du tout. Je dis que le grand remplacement n'a aucune chance de l'autre côté. Alors, où est-ce qu'on place le curseur? Quels sont les équilibres qu'il faut faire? Parce qu'il faudra des équilibres, puisque si on termine là, par là, par la question internationale, le travail, la répartition du travail, l'organisation du travail dans le monde est telle que les pays riches sont là pour la transformation des matières premières qu'ils récoltent ici, moyennant quoi il n'y a pas d'industrie dans ces pays d'émigration. Donc il n'y a pas de travail. Ils viennent donc là où on transforme, dans les usines, et là-bas on leur dit, bah, vous ne pouvez pas venir, ça ne va pas le faire. Enfin, certains le disent, ceux qui sont réalistes savent très bien qu'ils ne peuvent pas le dire, parce que justement, l'Organisation internationale du travail appelle l'immigration comme corollaire, c'est obligé. Vous ne pouvez pas soutirer toute l'industrie d'un côté et demander aux gens de rester sur place. Soutirer tout ce qui est technologie, avoir des territoires qui sont défaillants sur plein, plein, plein de choses, parce que par exemple, tout ce qui est extraction minière et des métiers nobles, c'est pris en charge par l'étranger. Donc tout ça fait que si monsieur Zemmour, par exemple, veut entrer dans ça, c'est très bien. Mais alors, il va falloir qu'il fasse une révolution culturelle des deux côtés de la Méditerranée. Et ce serait bien. Et cette révolution-là, on ne l'a pas encore vue venir. Mais ça, ce n'est pas seulement lui, parce que tous les autres aussi qui se cachent derrière, qui disent rien, pas parce qu'ils n'en pensent pas moins, non, mais ils n'ont pas fait la démonstration du contraire dans leur gouvernance, dans leur pratique, dans leur. Comment on va dire, dans leur staff. Bon, c'est vrai qu'une fois qu'on convoque la civilisation, c'est bien. Le grand remplacement, oui. Le grand déclassement, la France, oui, c'est encore ce qu'on disait tout à l'heure. Il commence à être victime. La France devient un pays du tiers-monde, comme on dit, parce que ben, l'industrie a foutu le camp. Bon, vraiment, ce problème de migration, c'est dommage qu'on en parle de cette façon-là. Ben, c'est un thème très intéressant qui fait revisiter toute la politique internationale et le grand déclassement, le grand remplacement, des très bons thèmes, que si on allait jusqu'au bout, à eux tout seuls, on referait toute la politique et nationale et européenne et internationale. L'Ukraine, par exemple, c'est ça, c'est le grand remplacement, parce que l'Amérique veut remplacer à tout prix sa culture, remplacer la culture russe par sa culture, la culture pas russe, mais je ne sais pas comment on dit encore slave, par sa culture, ça ne marche pas. Ça, c'est toujours du grand remplacement. Ce n'est pas toujours vu à l'aune de, je sais pas, des racistes primitifs ou primaires dont on nous parle souvent. Que dire, que dire, que dire? C'est une chronique qui est lancée. Ah oui, que dire? Je suis interdite. Facebook m'a annoncé hier que je ne pouvais pas publier pendant 30 jours. Ah ben c'est normal, hein, l'élection c'est le 24. Alors je me suis dit, ben, quel était mon crime? Et quand je regarde, oh ben le 9 mars, vous avez publié, là, 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 qui est contraire à notre déontologie. Et puis, quand je regarde, c'est quoi ce que j'ai publié? Ah, j'ai partagé le post de quelqu'un d'autre, juste comme ça, qui montrait les blacks, les hommes noirs, en force de l'âge, 20 ans, 25 ans, des gens vraiment adultes et vaccinés, avec la barbe, et puis habillés avec des bodys de femmes, les fesses prominentes, là, derrière, là, je vais dire, les fermetures ouvertes, là, les Je sais pas ce qu'il y a sur la poitrine, là, j'oublie moi. Tout a l'air. Non, non, moi, je suis obligé de réagir. D'autres qui ont des soutiens avec des petits shorts. Non, non, non. Je suis obligé de réagir en pédagogue pour dire oh. Et j'ai pas dit grand-chose. D'abord, celui qui a fait le poste, il a commenté. Il a dit, ben voilà, les Noirs, ils ont commencé par être esclavagisés. Et maintenant, voilà, ils sont esclavage, c'est volontaire. Alors, j'ai dit, j'appelle ça la servitude volontaire. C'est le seul commentaire que j'ai mis. La servitude volontaire, c'est quelque chose, hein? La servitude volontaire. Tout un débat. On appelle les intellectuels dans cette campagne pour élever le débat, sortir de ce, je vais dire, ce sentimentalisme débordant, cette indignation trop facile. Hein, vous voyez, larmoyant et tout, vraiment, on a subi la Shoah et tout, donc ça va, c'est bon, une fois ça va, maintenant vous êtes les boss, vous êtes les boss, c'est bon, non? Donc on peut quand même parler d'autre chose, parce que la servitude volontaire, ben c'est du grand remplacement subi, comme on parlait de l'immigration subie. Alors maintenant, si vrai, on aura peut-être plus le temps. Bon, moi, je suis interdite pour ça, mais vous savez bien, c'est parce que le remplacement qui a eu lieu au tournant du siècle, en 1900, combien, au 20e siècle, ce remplacement a donné la main à ceux qui sont les spécialistes de la fraude mondiale. Bon, alors pour frauder, l'Ukraine faisait partie de la fraude. Bon, voilà, pour frauder, on va éliminer maintenant tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, peuvent peut-être créer problème. Ah bon, voilà, des voix qui peuvent peut-être faire basculer la décision. Qu'est-ce que j'en ai à cirer, moi? C'est les Français qui votent, hein, 60 millions de personnes, c'est pas comme moi, mais bien sûr, une voix peut faire basculer d'autres voix. Donc, il va falloir que Radio Silence s'active un peu plus, puisqu'on en a peur, ou peut-être trouver d'autres canaux. Ben, il n'y a pas que Facebook dans la vie. Amis de Radio Silence, vous avez écouté Flash sur le monde par Élise Mock. Je vous dis à bientôt.